Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le jeudi 14 octobre et on vous accompagne en danseuse jusqu'à 6h30.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette.
La bicyclette d'Yves Montand, dont on a célébré hier le 100e anniversaire de la naissance.
Et puis Yves Montand, parce que vous allez aussi nous parler de bicyclette en
voilà, vous m'avez vu venir. Oui, le cyclisme, Julien, Tour de France homme et Tour de France femme, qui va faire son grand retour en 2022 après 12 ans d'absence. Les tracés des deux parcours seront dévoilés aujourd'hui. En attendant de connaître tous les détails, les étapes, les difficultés, eh bien nous savons que le départ de la grande boucle masculine sera donné à Copenhague, au Danemark, le 1er juillet. Et que la course se terminera le 24 juillet sur les Champs-Élysées. Le peloton féminin s'élancera dans la foulée depuis la plus belle avenue du monde. Ce Tour de France femme comportera 8 étapes et se déroulera dans un grand quart nord-est du pays. La nouvelle équipe féminine Cofidis comptera parmi les coureuses. Nous serons à 5h40 avec le président du secteur compétition du groupe, Thierry Vitu. Dans l'actualité également ce jeudi, Julien.
Des petits objets du quotidien qui se transforment en bombes incendiaires. La voiture télécommande de vos enfants, votre brosse à dents électrique, vos clés de voiture, autant de produits qui fonctionnent grâce à de petites batteries lithium. On en trouve partout désormais et le problème, c'est que ces objets, on les jette n'importe où, dans le bac vert ou le bac jaune, au lieu de les ramener dans le point de vente ou à la décharge. Résultat, avec les chocs et l'humidité, les batteries s'enflamment et c'est un fléau pour les centres de tri et de recyclage. Il ne se passe désormais plus une journée sans qu'un incendie se déclare. Le problème est tel que les professionnels du secteur demandent au gouvernement de réagir. Nous serons en ligne à 6h10 avec l'un des représentants de la Fédération des entreprises de recyclage. Au menu également, de la gastronomie dans votre prescription culture.
Poêlé en carpaccio, à la nage, dans sa coquille, voilà, la noix de Saint-Jacques se cuisine de mille façons. Olivier Pouls va une fois de plus nous mettre l'eau à la bouche dans trois quarts d'heure.
Et puis de la musique comme chaque jour. On écoute quoi ce matin, Omblin ?
Retour en mai 1970 quand les Beatles sortent leur dernier chef-d'œuvre. L'aventure douloureuse de Let It Be dans la partition à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. On commence tout de suite avec la météo. Bonjour Anissa Adadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Ouh, temps calme.
Ah oui, on a fait court parce que alors, sur la carte c'est très court aussi. Hein. Je vais vous décrire la carte de l'après-midi. Vous allez voir que c'est très agréable. Je me demande si on n'a pas la plus belle journée de la semaine. Bon, on va voir ce qui se passe ce week-end quand même. Le ciel est très dégagé ce matin. On a très peu de nuages. Du coup, à cette saison, quand il y a peu de nuages, les températures, elles sont fraîches. Exactement, Omblin. On a moins 1 degré à Nevers et à Clermont-Ferrand, 0 à Brive et Nancy, 1 petit degré pour Saint-Étienne, 2 degrés à Périgueux et Poitiers, 3 à Rouen, 5 à Paris et Lille, 8 pour Saint-Brieuc et déjà 13 degrés ce matin à Nice. Alors on a quelques brouillards hein, comme d'habitude, c'est normal en automne, des brouillards dans le Grand Est, des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace en passant par la Lorraine et la Champagne, sur le Nivernais, l'Allier, le Lyonnais et le Pays Basque, là aussi des brouillards. Et alors cet après-midi, vous prenez la carte de France, vous mettez des soleils jaunes partout et voilà, il n'y a même pas de vent, il n'y a même pas de nuages. On a 3 nuages sur la Côte d'Azur, c'est tout.
C'est
une très belle journée, on a 14 à 22 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Anissa Adadi. Place à l'info avec le premier journal de ce jeudi. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
À fond la forme, Emmanuel Macron chausse les crampons cet après-midi. Il participe à un match de foot au profit des pièces jaunes. Le président qui annonce ce matin un plan de 200 millions d'euros pour la création de 5000 équipements sportifs. La fermeture d'une mosquée pro-djihad à Alon dans la Sarthe, soupçonnée de faire l'apologie du terrorisme. Le gouvernement se dit inflexible face à l'islamisme. Certains fidèles ne comprennent pas cette décision. Et puis la Norvège sous le choc ce matin. 5 morts et 2 blessés, victimes d'une attaque hier soir. Le suspect armé d'un arc et de flèches a été interpellé. Les enquêteurs n'écartent aucune piste, y compris terroriste. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron laisse son costume dans le dressing de l'Élysée et enfile son short dans les vestiaires du stade de Poissy en région parisienne. Le président participe cet après-midi à un match de charité au profit des pièces jaunes. L'occasion pour Emmanuel Macron, grand fan de l'OM, de se dévoiler à quelques mois de la présidentielle. Cyril de la Morinerie.
Oui, ce match de foot aura des faux airs de meeting de campagne avec Brigitte Macron au bord du terrain en première supportrice et un président en plein exercice de communication, certes sans micro, mais avec des crampons aux pieds. Emmanuel Macron souhaite jouer tout le match, ce qui n'a pas encore été validé par les services de sécurité de l'Élysée. Mais surtout, le président de la République a tenu à changer de poste, révèle le manager général du Variété Club de France, Jacques Vendroux.
Habituellement, il joue latéral gauche, le numéro 3, qu'il a piqué à leur boulot. Il m'a dit « je veux jouer milieu de terrain défensif ». C'est un poste qui lui plaît, c'est un poste où il faut être prêt physiquement, mais franchement, j'ai pas d'inquiétude.
Ainsi, Emmanuel Macron pourra s'aventurer à droite et s'appuyer sur l'un de ses soutiens, le maire de Poissy, Carl Olive, tout en tentant de ne pas se faire déborder sur sa gauche. Alors face à lui, il n'aura pas à affronter Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, mais des soignants du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Le président pourra regarder vers l'horizon. Il ne verra pas Édouard Philippe et son nouveau parti, mais l'attaquant Sonny Anderson. Emmanuel Macron, qui a eu une licence de foot lorsqu'il étudiait à l'ENA, s'est préparé physiquement pour ce match, comme s'il s'apprêtait à débuter une grande compétition.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron va en Seine-Saint-Denis ce matin, terre des JO de 2024, toujours sur le thème du sport, pour y annoncer la création de 5000 équipements sportifs partout en France, des dojos, city-stades, mais aussi des skate-parks pour un budget de 200 millions d'euros.
Près du Mans, la fermeture de la mosquée d'Alonne pour des prêches légitimant le djihad.
À la fois lieu de culte et école coranique, considérée comme un lieu d'endoctrinement alors que 110 enfants y étudient, décision justifiée par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
La mosquée d'Alonne est gérée par deux associations et les informations dont disposent nos services de renseignement nous montrent qu'on y faisait l'apologie du djihad, de la mort en martyr, du terrorisme et de la haine. Nous sommes inflexibles face à l'islamisme et nous sommes intransigeants face à la haine et à la radicalisation. Quand on attaque la République, elle doit répondre, et elle doit répondre fort. Et donc nous avons engagé une procédure pour demander la fermeture de cette mosquée.
La mosquée d'Alonne fermée, donc Mathieu Bock est allé dans cette petite ville de 11 000 habitants pour Europe 1. Il a rencontré Hilal, cet habitant du quartier regrette que tous les fidèles subissent cette sanction.
Moi je suis surpris, je suis peiné. Moi je pense que c'est totalement exagéré. Après, peut-être qu'il y aura des faits qui vont être prouvés ou qui vont être mis en avant, je ne sais pas. Et puis même s'il y a quelqu'un qui a dit une bêtise, il faut aller voir cette personne-là. Il ne faut pas punir 300 musulmans qui viennent 5 fois par jour faire leur prière ici. Je trouve pas ça correct. Moi, je ne suis pas pour pénaliser, généraliser, mettre tout le monde dans le même sac. Voilà ce que je voulais dire. Puis sincèrement, vous inquiétez pas, hein, les services de renseignement généraux, ils sont là aux prêches. Hein. Donc je veux dire, ce serait une mosquée qui serait réputée pour être un appel au djihadisme ou un truc comme ça aurait été fermé depuis longtemps. Et puis je pense que la mairie aurait mis le holà là-dessus.
Des propos recueillis au micro Europe 1 de Mathieu Bock à Alonne.
10 ans après la tuerie d'Utøya, la Norvège à nouveau endeuillée après une attaque hier soir. 5 morts, 2 blessés. La piste terroriste n'est pas exclue.
Et l'assaillant qui a été interpellé était armé d'un arc et de flèches. On ne connaît pas ses motivations. Toutes les pistes sont étudiées, Diane Berger.
Oui, tout commence en fin de journée à Kønsberg, une commune de 28 000 habitants à 80 km d'Oslo, quand un homme commence à semer la terreur dans un supermarché et différents quartiers de la ville, raconte Øyvind Tass, un responsable de la police locale.
À 18h13, la police a reçu plusieurs appels au sujet d'une personne qui se déplaçait avec une arme, un arc et des flèches en fait. Il a été vu donc dans un supermarché, il est sorti ensuite dans la ville. L'auteur des faits a été arrêté. Aucun complice n'est recherché. L'homme aurait donc agi seul.
Malgré cette arrestation, les services de renseignement sont placés en état d'alerte et la police distribue des armes à tous ses agents, alors que les forces de l'ordre en sont rarement équipées en Norvège. Ces événements nous ébranlent, a déclaré Erna Solberg, la première ministre du pays, qui quittait hier ses fonctions. D'autant que l'attaque rappelle à la Norvège une autre tuerie, il y a 10 ans, quand le terroriste d'extrême droite Anders Breivik avait abattu 77 personnes à Oslo et Utøya.
Diane Berger. On en sait désormais plus sur les circonstances de l'accident de TER qui a fait 3 morts des migrants algériens mardi à Cibourg. Avec l'audition par le parquet de Bayonne hier du seul rescapé, il indique qu'il tentait d'échapper au contrôle de police en suivant les voies ferrées. Arrêtés pour se reposer, ils se sont endormis. Ils n'ont pas vu le train arriver. Hier soir, 200 personnes se sont rassemblées devant la gare de Saint-Jean-de-Luz pour leur rendre hommage.
En politique, réunion ce matin du comité stratégique des Républicains pour préparer le congrès. Forêt qui doit déterminer le 4 décembre qui sera le candidat de la droite à la présidentielle.
Oui, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Denis Père et Valérie Pécresse, ils ont jusqu'au 2 novembre pour réunir 250 parrainages d'élus. En attendant, dès 9h45 a lieu la première réunion de l'instance de contrôle pour définir l'organisation des mois à venir. Alexandre Chauveau, peut-on dire que ça y est, les Républicains sont rassemblés ?
Oui, c'est la première réunion officielle entre le parti et les équipes des candidats. Tous seront représentés par un de leurs proches. Valérie Pécresse et Michel Barnier ont par exemple nommé leurs directeurs et directrices de campagne, Patrick Stefanini et Marie-Claire Carrergé, deux anciens chiraciens. À l'ordre du jour, entre autres, la question des débats télévisés. Tous les candidats s'y sont maintenant déclarés favorables et il devrait y en avoir deux, dont un avant le 16 novembre, date limite pour adhérer aux Républicains et pouvoir ainsi voter au Congrès. D'autres questions seront abordées, d'ordre logistique principalement, mais l'important c'est que la photo de famille soit belle, car en réalité, tous les candidats traitent directement avec le président du parti, Christian Jacob, le parti qui souhaite rattraper le temps perdu après les querelles sur le mode de désignation du candidat. Il est temps d'enclencher une dynamique, souffle-t-on en interne, afin d'occuper l'espace médiatique et politique délaissé ces dernières semaines. Et de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier seront tous les trois en déplacement ce soir à la rencontre des adhérents LR.
Alexandre Chauveau, journaliste au service politique d'Europe 1. Paris prendra des mesures de réplique, voire de rétorsion d'ici 8 jours si Londres campe sur ses positions. Avertissement clair de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, hier soir dans l'affaire des licences de pêche françaises dans les eaux britanniques. La France menace notamment de réduire ses livraisons d'électricité à Jersey, mais aussi de prendre des mesures dans le secteur des services financiers ou de la recherche.
On termine avec un incontournable de notre garde-robe, la paire de baskets.
Elles font partie de nos vies, certains les collectionnent, d'autres n'hésitent pas à dépenser des milliers d'euros pour une paire. Alors le Musée de l'Homme consacre une exposition à l'histoire des sneakers, ce nom qui vient de sneak on, qui veut dire marcher sans faire de bruit en anglais. Marie Jiquel a enfilé les siennes et nous fait découvrir cette exposition.
Les premières Stan Smith, paires iconiques, toujours à la mode, sont évidemment présentes, à côté d'une paire portée par la joueuse de tennis Serena Williams. Mais les baskets ont un lien plus étonnant avec un autre univers que celui du sport, l'automobile. Pauline Stigler du Musée de l'Homme a conçu l'exposition.
Alors Michelin, ils ont des entreprises de caoutchouc, donc ils fabriquaient du caoutchouc et ils fabriquaient des baskets au tout début. Enfin, c'était des chaussures de ville plus précisément.
Depuis quelques années, la basket côtoie plus les défilés de mode que les terrains de sport. Franz Mani, le responsable scientifique de l'exposition.
La basket, elle a bénéficié de toutes les techniques de marketing, mais aussi du design qui était appliqué dans le marché de l'automobile. On change un détail, on fait une petite collaboration, etc. Et ça fait que c'est un autre produit qu'il faut se procurer parce que le précédent, il est devenu vieux.
Comme les marques de voitures, celles des sneakers réfléchissent à des produits moins polluants avec des matières végétales. Nike investit dans cette recherche 500 millions de dollars par an.
Sneakers, les baskets entrent au musée. C'est jusqu'au 25 juillet prochain au Musée de l'Homme sur la place du Trocadéro à Paris.
Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
Il est 5h10 et sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et mon pari gagnant sera le 305 Super Cali. À peine âgé de 2 ans, ce poulain a déjà couru à 5 reprises. Jamais plus loin que 5e, sans pour autant avoir réussi à s'imposer. Cette lacune pourrait bien être comblée dès cet après-midi puisque son entraîneur italien Alessandro Botti a décidé de le munir pour la première fois d'une perdrix australienne afin qu'il soit plus concentré sur son job de cheval de course et qu'il réalise ainsi ce petit plus qui lui permettra de remporter sa première victoire. Notez bien, pour Paris-Longchamp, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 5, Super Cali.
Super Cali, c'est noté. Merci Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Excellent réveil à vous sur Europe 1. On revient tout de suite avec le pressing.
C'est la revue de presse la plus matinale de France avec au menu ce matin un couple de papas qui se racontent, des handballeurs qui ramènent des réfugiés afghans après un match en Macédoine et le nouveau défi des guerres hybrides. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez 5h11. On ouvre les journaux pour votre pressing et nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Mine, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux. Prix des carburants, l'exécutif cherche la parade, titre Les Échos, mais selon Le Quotidien, la piste d'une baisse généralisée des taxes n'emballe pas le gouvernement car 5 centimes de moins par litre provoquerait un manque à gagner de 2,5 milliards d'euros pour les comptes publics. Aujourd'hui en France promet des révélations sur l'assassinat de Samuel Paty alors que des hommages sont prévus demain et samedi, un an après l'attentat terroriste qui a coûté la vie au professeur. Et puis la Voix du Nord consacre sa une aux violences sexuelles dans l'église. Des victimes racontent l'indicible, titre Le Quotidien nordiste. Voilà pour les unes. Ombline, à vous.
Et avec ce matin, en ce qui me concerne, le portrait de Libération. Voilà, c'est mon choix. On retrouve ce portrait à la toute fin du quotidien chaque jour, vous le savez sans doute. Un double portrait en l'occurrence, celui de l'animateur télé de TF1, Christophe Beaugrand, et de son mari, Ghislain Gerin, en couple depuis 10 ans. Ils racontent leur parcours du combattant lorsqu'ils ont souhaité devenir père et fonder une famille. Ils viennent de sortir un livre à ce propos, « Fils à papa », qui est en aucun cas un livre de propagande, disent-ils, mais plutôt une volonté de participer à une normalisation des choses, d'ajouter, je cite, une pierre à l'édifice de la visibilité des familles homoparentales. Ces papas-là veulent faire entendre un message simple. Deux hommes ou deux femmes peuvent se marier, fonder une famille, être heureux et l'homosexualité n'est pas un drame malgré toutes les violences homophobes auxquelles ils ont été confrontés, une violence dont ils ne voient pas la fin d'ailleurs. Pour avoir cet enfant, Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin ont eu recours à la GPA. Un garçon, Valentin, né il y a 2 ans d'une gestation pour autrui aux États-Unis. Leur aventure commence en 2017. Ils racontent le spermogramme, le choix de la donneuse d'ovocytes, leur rencontre avec Whitney Moyer près de Las Vegas, déjà mère de 3 filles. C'est elle qui a porté leur bébé. Ils racontent les difficultés administratives pour faire reconnaître la double filiation paternelle à l'état civil. Et bien sûr, le prix extrêmement élevé de l'acte. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. 130 000 euros déboursés pour réaliser leur rêve d'être père. Ouais. Ils se rendent compte à quel point ils sont privilégiés et savent que beaucoup de couples homosexuels doivent souscrire un prêt et sans dette. Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin n'ont pas l'intention de devenir un porte-étendard de l'homoparentalité et de la GPA, mais ils espèrent que le débat sur la légalisation de la gestation pour autrui ne sera pas instrumentalisé pour devenir une source de division des électeurs lors de la prochaine présidentielle. Papa outé, jeu de mots avec coming out, c'est le portrait de Libération.
Oui, titre savoureux de ce portrait. Merci beaucoup, Ombline. Martin, quel article avez-vous retenu ?
Eh bien, un drôle de périple ce matin, celui de 10 réfugiés afghans qui sont arrivés à Montpellier cette nuit dans l'avion des handballeurs de la ville. C'est le journal L'Équipe qui nous raconte cette mission de sauvetage un peu particulière. Alors, ces Afghans, qui sont-ils ? Eh bien, c'est la famille Ghazniwal. Le père Hakimoula entretient une relation de près de 20 ans avec la ville du Languedoc et son club de hand. Au début des années 2000, Hakimoula, alors maire de Ghazni, c'est une ville de 200 000 habitants au sud de Kaboul, rencontre Georges Fraîche, l'ancien maire de Montpellier, l'invite en France, lui remet une médaille de citoyen d'honneur de la ville et, ironie de l'histoire, il l'emmène voir un match de hand au Palais Bougnol. C'est la salle du club du MHR, le club de handball de la ville. C'était à Montpellier-Créteil un soir de mai 2003. Près de 20 ans plus tard, les talibans ont pris Kaboul au cœur de l'été et celui qui est devenu conseiller au ministère de la paix se sait en danger. Le 21 août dernier, il lance une bouteille à la mer sur la adresse mail de la mairie de Montpellier. Nous craignons pour notre vie. Forcément touché, le nouveau maire, Michael Delafosse, missionne son directeur de cabinet. Il faut absolument rapatrier cet Afghan et sa famille. Plus de 2000 messages sont échangés, notamment avec le troisième fils, Ghazniwal, étudiant en informatique. C'est une course contre la montre qui s'engage. La fermeture de l'aéroport de Kaboul ne facilite pas les choses, mais un vol de l'ONG Open Society Foundation depuis le nord du pays est finalement trouvé. Dernier moment d'angoisse, la semaine dernière, quand 10 talibans armés débarquent dans l'hôtel de la famille avant leur embarquement. Et puis vendredi, c'est la libération. Ghazniwal quitte l'Afghanistan, direction la Géorgie. Reste à organiser leur rapatriement en France et c'est là que la mairie pense aux handballeurs qui jouent un match de Ligue des Champions en Macédoine, à quelques 1000 km de là. Le président du MHB accepte immédiatement. Cela semblait naturel de participer à cette aventure humaine. Alors malheureusement, Hakimoula n'a pas pu assister à la victoire de son club de cœur hier. Les autorités macédoniennes ne plaisantent pas avec les réfugiés en transit, mais il n'en tiendra pas rigueur au Montpellierin. Il a atterri cette nuit vers 3h du matin à Montpellier avec ses proches. Ils sont désormais libres et c'est en partie grâce à un club de hand. Mission sauvetage en Macédoine, c'est à lire dans l'équipe.
Donc ces réfugiés sont montés dans l'avion privé,
l'avion privé
du club et ont été rapatriés en France.
C'est exactement.
Une jolie histoire, effectivement. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un dossier passionnant du Figaro qui s'intéresse aux mercenaires. Vous savez, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant avec le projet d'alliance entre le gouvernement malien et le fameux groupe Wagner, cette société paramilitaire russe proche du Kremlin, qui depuis plusieurs années envoie ses combattants aux quatre coins du monde. On en trouve notamment 2000 rien qu'en Libye. Paris fait tout actuellement pour empêcher ce partenariat entre Bamako et Wagner, dont le credo c'est de proposer aux pays en crise ses services pour former les militaires locaux, les conseiller et assurer la protection des lieux stratégiques ou des membres du gouvernement, le tout moyennant finances. Mais ces milices, vous l'avez compris, sont avant tout des armées de l'ombre, des soldats non officiels qui permettent aux pays dont ils sont originaires de défendre leurs intérêts dans des zones instables, voire de créer sciemment de l'instabilité pour ensuite profiter du chaos, ouvrir de nouveaux fronts géopolitiques et au passage mettre la main sur toutes les richesses locales. Nous sommes entrés dans l'ère des guerres hybrides et c'est la préoccupation principale du nouveau chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. Depuis quelques semaines, nos militaires s'entraînent aussi à devoir mener la guerre contre des mercenaires et ce n'est pas sans soulever quelques questions. A-t-on légalement le droit d'ouvrir le feu sur les combattants de ces compagnies privées alors qu'officiellement, ils ne sont là que pour conseiller d'autres soldats? Sur le papier, le droit international interdit formellement le recours à des mercenaires dans les conflits, mais les vides et flous juridiques sont si nombreux que les groupes paramilitaires pullulent là où les États sont en faillite. Il n'y a d'ailleurs pas que les Russes qui utilisent ces sociétés privées de sécurité. La Chine vient de s'y mettre, notamment pour sécuriser ses nombreuses routes commerciales. Les États-Unis aussi ont été les précurseurs dans le domaine en faisant appel, souvenez-vous, à la société Blackwater pour remplacer une partie de ses troupes en Irak. En clair, de la sous-traitance, c'est bien plus économique. Il faut dire que pour les États, ces milices ont beaucoup d'avantages. Elles permettent d'occuper le terrain à moindre coût, financier donc, mais aussi politique et diplomatique. Il n'y a plus besoin d'avoir à justifier à l'opinion publique l'envoi de soldats à des milliers de kilomètres. Plus besoin non plus de trop s'exposer sur la scène internationale. Bah oui, ce sont des sociétés privées. Nous n'avons aucun lien avec elles. L'argument est connu et imparable. À tel point que certains, en France, militent pour que l'on crée notre groupe Wagner à nous. C'est le cas du général Castres, qui n'est autre que l'ancien chef des opérations extérieures. Les mercenaires, nouveaux adversaires dans les guerres hybrides, c'est à lire et c'est passionnant dans le Figaro.
Merci beaucoup Julien, le pressing c'est terminé pour aujourd'hui et on vous retrouve Martin dans une quarantaine de minutes.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure pour le journal des sports évidemment.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, très bon réveil à vous. Voici les principaux titres de ce jeudi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
À Alonne, près du Mont, la mosquée ferme sur ordre de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le lieu de culte qui abrite aussi une école coranique où 110 enfants étudient est accusé de prôner le djihad, le terrorisme et la mort en martyr. La Norvège en deuil après une attaque hier soir. Bilan 5 morts, 2 blessés. Les enquêteurs n'écartent aucune piste, y compris terroriste, l'assaillant armé d'un arc et de flèches a été interpellé. Emmanuel Macron sur le terrain du sport aujourd'hui. Le président annonce ce matin en Seine-Saint-Denis un plan de 200 millions d'euros pour construire 5000 équipements sportifs partout en France. Il chaussera ensuite les crampons cet après-midi pour disputer un match de foot au profit des pièces jaunes à Poissy, en région parisienne. Et puis la préfecture de police de Paris appelle à éviter les déplacements, recourir au covoiturage et, si possible, télétravailler aujourd'hui. Conséquence d'un épisode de pollution aux particules fines en Île-de-France.
Europe 1. Il est 5h20 sur Europe 1. Chaque matin, on donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes et qui visent la Lune, en l'occurrence.
Bonjour Thomas Fouquet.
Bonjour monsieur.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes conseiller du directeur en charge de l'innovation, des applications et de la science au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et vous venez de lancer à Toulouse Tech the Moon, le tout premier incubateur mondial dédié à la Lune. Expliquez-nous, ça consiste en quoi ?
Alors, Tech the Moon, comme vous l'avez bien dit, c'est un incubateur de start-up. C'est-à-dire que pendant un an, on va incuber des start-up spécifiquement sur la Lune. C'est-à-dire que ces start-up proposent des innovations lunaires qui répondent aux défis de la décennie, je dirais, la présence durable de l'homme sur la Lune. Mais on n'oublie pas la Terre quand on pense à la Lune. Les innovations lunaires doivent aussi trouver leur translation terrestre en réponse à un besoin marché ou un besoin sociétal.
C'est le programme d'incubation. Vous pouvez nous présenter quelques-unes des startups que vous avez sélectionnées ?
Par exemple, nous avons une société qui s'appelle Spartan Space. Spartan Space développe un habitat gonflable pour accueillir les futurs travailleurs de la Lune. Donc ça, c'est la première. Et une deuxième s'appelle The Exploration Company, qui est en fait un véhicule spatial qui peut à la fois orbiter autour de la Lune, mais aussi se positionner à la surface de la Lune et sera réutilisable. Troisième, qui est Orius Technologies, qui est une start-up en fait, qui développe une plateforme de production d'expérimentation agronomique pour produire à la surface de la Lune différents types à la fois de végétaux, mais aussi on peut imaginer la nourriture à la surface de la Lune pour nourrir tous les astronautes qui iront et séjourneront pendant longtemps. Il est prévu des missions de longue durée à la surface lunaire. Une autre qui est liée vraiment à la technologie en fonction des besoins sur la Lune qui correspondent aux rayonnements électromagnétiques autour de la Lune. Il faut savoir détecter les rayonnements d'antennes qui vont être en orbite autour de la Lune. Il faut savoir les détecter, les évaluer. Donc il y a cette technologie. Enfin, la dernière, donc la société Enifield qui développe cette technologie pour détecter les ondes électromagnétiques. Et la dernière, c'est une start-up qui s'appelle Métis. Et Métis est capable de localiser, discriminer des défauts non détectables par les dispositifs actuels. Et pour ça, cette technologie développée par la start-up Métis va le permettre.
Et quand vous dites incuber ces start-up, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire les conseiller, les guider?
Alors, Tech the Moon, donc, c'est ce premier incubateur au monde qui est dédié à la Lune, est le fruit d'un partenariat entre l'expertise technique de l'Agence spatiale française, le CNES, et l'expertise, je dirais, plus business, d'un incubateur régional basé à Toulouse qui s'appelle Nubo. Et donc, pendant un an, on va incuber ces 5 startups, c'est-à-dire qu'on va les accueillir au Centre spatial à Toulouse, en immersion totale auprès des équipes et experts techniques du CNES, et en immersion également pendant un an au sein des équipes de notre partenaire Nubo.
Le but final, c'est quoi? Que la France participe à cette nouvelle course à la Lune qui se joue actuellement entre les Américains, les Chinois et les Russes?
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dynamique impulsée par les États-Unis du retour sur la Lune, prévue en 2024 d'annommer une femme à cette phase de la Lune. Les Russes et les Chinois se sont associés pour établir des bases scientifiques à cette phase de la Lune. Donc, quid de la position de la France et de l'Europe dans ce mix, je dirais? Eh bien, clairement, Take the Moon donne une dynamique qui est vers les écosystèmes, c'est-à-dire qu'on n'ira pas sur la Lune seul d'un point de vue institutionnel, c'est bien avec les entrepreneurs, les innovateurs, les start-up, les grands groupes, tous ensemble, du spatial, du non-spatial, qu'on sera capable de répondre à des défis lunaires, je dirais made in France, et pour la France et pour l'Europe.
Alors le problème, c'est justement, c'est que les Européens n'ont pas de programme dédié pour emmener des hommes sur la Lune, donc j'imagine que ces technologies pourraient être vendues ou proposées aux Américains notamment?
Alors aujourd'hui, le positionnement, je dirais, va se clarifier dans les mois à venir. Mais d'un point de vue écosystème, en tous les cas, notre mission au CNES est aussi de favoriser un écosystème qui développe ses innovations lunaires pour demain. Bien sûr, ces startups qui sont basées en Occitanie, c'est une des conditions du programme, c'est d'être en Occitanie aujourd'hui. On va l'extrapoler dans d'autres régions en France avec vraiment l'objectif d'avoir des leaders, des pépites françaises qui développent ces innovations lunaires et avec l'objectif de les garder en France et en Europe.
Alors là, on vise la Lune, mais vous l'avez dit, ces nouvelles technologies pourraient être aussi utiles sur Terre.
Tout à fait, c'est bien là l'objectif. Il faut voir la Lune comme un nouvel objet d'innovation, si vous voulez, dans des conditions extrêmes que nous n'avons pas sur Terre. Et en ce sens, l'innovateur pense à partir de cet objet lunaire différemment, hors du cadre habituel de notre référentiel terrestre, et amène donc à des innovations plus que disruptives, je dirais des innovations radicales, qui trouveront leurs applications terrestres en translation, je dirais, et en adaptation de cette innovation en réponse à des applicatifs marchés terrestres ou sociétaux.
Viser la Lune, ça ne lui fait pas peur, c'est l'incubateur Tech the Moon à Toulouse. Merci Thomas Fouquet, conseiller du directeur
merci
de l'innovation des applications et de la science au CNES, de nous avoir présenté cette initiative. Très bonne journée à vous.
Bonne journée à vous.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Ils prêchent le djihad, la mort en martyr et les actes terroristes. Le ministère de l'Intérieur ordonne la fermeture de la mosquée d'Allonne dans la Sarthe. L'air que l'on respire dans nos villes peut-il s'améliorer? Une entreprise suisse vient de mettre au point une machine à dépolluer l'atmosphère extérieure. Un bleu bientôt en prison, le footballeur français Luca Hernandez, convoqué par un tribunal espagnol pour non-respect d'une mesure d'éloignement. La justice pourrait ordonner son incarcération. Et puis la conquête commerciale de l'espace se poursuit. Blue Origin, la fusée de Jeff Bezos a effectué son deuxième vol. À son bord, une vedette internationale, le capitaine Kirk, personnage central de la série Star Trek.
Europe 1.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Fermeture provisoire en attendant la fermeture définitive. Dans la Sarthe, les fidèles de la mosquée d'Allonne n'entendront plus les prêches incitant au djihad armé et à la mort en martyr. C'est en tout cas la conviction du ministère de l'Intérieur qui a décidé de fermer ce lieu de culte situé à la périphérie du Mans. Sur place, on est partagé entre incompréhension et colère. Reportage Mathieu Bock.
Certains fidèles arrivent à la mosquée, leur tapis sous le bras, mais tombent sur une porte fermée, comme Hilal, déçu de ne pas pouvoir prier.
Moi, je suis surpris, je suis peiné. Moi, je pense que c'est totalement exagéré. Après, peut-être qu'il y aura des faits qui vont être prouvés ou qui vont être mis en avant, je ne sais pas. Et puis même s'il y a quelqu'un qui a dit une bêtise, il faut aller voir cette personne-là. Il ne faut pas punir 300 musulmans qui viennent 5 fois par jour faire leur prière ici. Je trouve pas ça correct.
Mohamed, lui, rebrousse chemin et rentre prier dans son appartement. Un moindre mal, selon lui.
On fait pas des prêches contre les juifs, contre les autres. Hein. L'islam, c'est autre chose. L'islam, c'est la tolérance et la générosité. Hein. On fait pas des prêches pour mettre les gens les uns contre les autres. C'est pas possible. D'autant plus que nous sommes en République. Il y a des lois, il faut les respecter. S'ils veulent faire un prêche, qu'ils aillent en Arabie Saoudite.
Hors micro, un fidèle nous confie que mardi matin, il a vu les policiers donner des phrases entières de ces prêches violents, ainsi que les dates et les heures précises au directeur de la mosquée pour justifier leur perquisition. Allonne, Mathieu Bock, Europe 1.
Les avoirs des deux associations qui gèrent la mosquée d'Allonne et de leurs 8 responsables sont bloqués depuis près d'une semaine. Dans l'enquête sur l'accident de TER à Cibourg dans les Pyrénées-Atlantiques qui a fait 3 morts, les 4 hommes des Algériens en situation irrégulière voulaient échapper à la police. C'est pour cette raison qu'ils se sont couchés sur les voies. Explication donnée par le seul rescapé qui tentait, comme ses compagnons, de pénétrer illégalement sur le territoire français.
La campagne pour la présidentielle, à droite, l'horizon se dégage un peu pour Xavier Bertrand.
À moins de 2 mois du congrès d'investiture, le président des Hauts-de-France enregistre le renfort du patron des députés Les Républicains à l'Assemblée. Damien Abad officialise son soutien à Xavier Bertrand. Le soutenir, c'est jouer la gagne, dit-il ce matin dans Aujourd'hui en France, le Parisien.
Comment lutter contre la pollution de l'air dans les villes? Eh bien, une entreprise suisse a peut-être trouvé la recette miracle.
Hasard du calendrier, cette journée nationale de la qualité de l'air sera marquée en Ile-de-France par un épisode de pollution aux particules fines. C'est ce qu'annonce Air Paris ce matin. La pollution de l'air tue chaque année entre 40 000 et 100 000 personnes en France, selon les études. Comment lutter contre un tel fléau? Eh bien, une entreprise a eu l'idée d'inventer un système de dépollution de l'air. C'est une première mondiale, Laura Laplot.
Le système ressemble à un abribus de 5 mètres sur 3 mètres et il est capable d'aspirer l'air et de le rejeter sans particules fines, comme l'explique Jérôme Giacomoni, le cofondateur de l'entreprise Aérophile, à l'origine du système.
C'est le principe de l'électricité statique qu'on a tous vécu avec un peigne quand on se coiffe, tout d'un coup on voit les cheveux qui se dressent. En fait, on va charger les particules fines, puis après on va les collecter. Un peu comme si on mettait un petit aimant sur chaque particule fine et qu'après on va appliquer sur une plaque. Et ensuite, on va la découper en tout petits morceaux, à tel point que ça va devenir des gaz. Donc finalement, on les fait disparaître.
Une solution concrète qui a quand même un coût, environ 100 000 euros par appareil, mais une solution nécessaire pour le docteur et cardiologue Pierre Souvet.
Personne n'est à l'abri de la pollution de l'air, même si vous vous pensez en bonne santé. Après, il va y avoir des gens plus fragiles, les femmes enceintes, les enfants, les gens qui ont déjà des pathologies, mais personne n'est à l'abri. Donc si on veut qu'il y ait moins de malades et moins de décès, il faut prendre ce sujet à bras le corps.
Ce système convient à tous les lieux exposés à la pollution de l'air, comme le métro, les tunnels, mais aussi à tous les sites qui accueillent des publics sensibles, les écoles, les hôpitaux et les centres sportifs.
Laura Laplot, le système sera installé pour les Jeux de 2024 aux abords du village olympique en Seine-Saint-Denis.
Après Benjamin Mendy, l'international français, Lucas Hernandez va-t-il devoir lui aussi aller en prison?
Le champion du monde est convoqué mardi prochain devant un tribunal espagnol. Le français, qui évolue aujourd'hui en Allemagne, va se voir notifier sa condamnation pour ne pas avoir respecté une décision de justice. Lucas Hernandez devait se tenir éloigné de sa femme avec laquelle il s'était violemment disputé, mesure dont il n'a pas vraiment tenu compte, Henri de la Guérie.
Oui, la justice espagnole a fini par perdre patience avec Lucas Hernandez. Condamné en 2017 à 1 mois de travaux d'intérêt général car il s'était battu avec sa compagne, le défenseur de l'équipe de France écope de 6 mois de prison en 2019 pour avoir enfreint une mesure d'éloignement. Pendant 6 mois, il n'avait pas le droit de s'approcher de celle qui est devenue ensuite la mère de son fils. Quelques semaines plus tard seulement, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de partir en voyage avec elle à Miami. Il s'en est vanté sur les réseaux sociaux. L'avocat du joueur avait demandé un aménagement de peine. En Espagne, les condamnations qui ne dépassent pas 2 ans de prison ne sont généralement pas appliquées, sauf lorsqu'il s'agit d'une récidive. Pour le juge de Madrid, Lucas Hernandez n'a plus d'excuses. Le footballeur est donc convoqué mardi prochain au tribunal pour se voir notifier son incarcération. Il aura alors 10 jours pour rentrer en prison, sauf si le recours qu'il a déjà présenté est accepté par la justice.
Henri Delaguerie, correspondant d'Europe 1 en Espagne.
En Norvège, la piste terroriste n'est pas totalement écartée après une attaque qui a fait 5 morts hier soir à Kongsberg dans le sud-est du pays.
5 personnes tuées et 2 autres blessées. Cette fois, le tireur n'avait pas de pistolet ou de fusil d'assaut, mais un arc et des flèches. Le suspect a été interpellé et aurait agi seul. Même si elle n'écarte aucune hypothèse, la police estime effectivement naturel d'envisager la piste terroriste.
La course à l'espace continue. Après Elon Musk, c'est au tour de Jeff Bezos d'envoyer des touristes en orbite.
C'est le deuxième vol commercial organisé par le patron d'Amazon. On peut toujours se demander ce que la science va y gagner dans cette affaire. S'il ne s'agit pas d'une querelle d'égo mal placée entre milliardaires, cela fait au moins des heureux, comme le capitaine Kirk à 90 ans. Le personnage central de la série Star Trek, William Shatner, s'est offert un moment inoubliable. 4 minutes en apesanteur à 100 km d'altitude, la frontière de l'espace.
C'était si émouvant pour moi. Cette expérience est quelque chose d'incroyable. J'espère que je ne m'en remettrai jamais. J'espère que je pourrai conserver ce que je ressens maintenant. Je ne veux pas le perdre. C'était tellement plus grand que moi et la vie. Tout le monde sur Terre a besoin de faire ça. Tout le monde a besoin de voir ça.
Et enfin, pour le voir, il faudra quand même attendre encore un petit peu parce que c'est pas forcément donné le voyage. William Shatner, alias Capitaine Kirk dans la série Star Trek.
Qui devient par la même occasion l'être humain le plus âgé à avoir jamais été dans l'espace. C'était le journal de 5h30 du très jeune Christophe Lamarbre. Merci Christophe. On passe aux courses avec Thierry Léger et ses pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce Quintet réservé à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Avec 14 partants et non 16 comme initialement prévu, les numéros 6 et 15 ayant déclaré forfait. Deux fois à l'arrivée pour autant de tentatives dans cette catégorie des quintets, Romanosa, le numéro 5, me semble être une bonne favorite. Sérieuse et indifférente à l'état du terrain, elle devrait pouvoir sans incident disputer activement la victoire. On lui opposera les numéros 3, Vadalia, bonne troisième d'un quintet le 2 août à Dieppe et qui aura pour elle une certaine fraîcheur, n'ayant pas recouru depuis. 2. Voff, qui lui va disputer son premier quintet et il a visiblement le potentiel pour d'emblée se distinguer. Et 1. Forefront, certes le plus chargé de ce handicap, mais qui dépend de l'entraînement de la très habile Joséphine Soudan, qui n'aime jamais courir ce genre de course sans avoir une première chance. Enfin les numéros 13, Carolyn, 4, Kaliska, 8, Vent Contraire et 9, Madison Avenue, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 3, 2, As, 13, 4, 8 et 9.
Et tous ces pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h38, c'est dans un instant du cyclisme avec le tracé du Tour de France 2022 hommes et femmes. Il sera dévoilé aujourd'hui.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bon réveil et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est 5h40 et c'est aujourd'hui qu'aura lieu la grande présentation du parcours du Tour de France cycliste 2022. Il se tiendra les 3 premières semaines de juillet pour les coureurs masculins. Et dans la foulée, ce seront les femmes qui s'élanceront. Le Tour de France féminin fait enfin son retour après 12 années d'absence. Son tracé sera également dévoilé tout à l'heure. Et dans le peloton, il y aura la nouvelle équipe féminine professionnelle de Cofidis. On en parle, Omblin, avec le président du secteur compétition du groupe.
Bonjour Thierry Vitu.
Bonjour.
Pour commencer, un mot sur la grande boucle masculine. Nous savons déjà que le départ sera donné à Copenhague, au Danemark, le 1er juillet. Et l'arrivée aura lieu, comme d'habitude, sur les Champs-Élysées à Paris le dimanche 24 juillet. Mais pour ce qui est du tracé, eh bien, les contours sont encore assez flous. Avez-vous des attentes particulières ?
Des attentes ? Moi, je suis pressé, mais je crois que je ne suis pas le seul, de découvrir ce parcours du Tour de France 2022. Effectivement, on sait qu'il va y avoir plusieurs étapes au Danemark. Et ensuite, le Tour de France devrait passer, d'après mes informations, dans la région du Nord. Ça nous ferait tous très plaisir de pouvoir voir le Tour de France sur les routes des Hauts-de-France.
Le tracé du Tour de France femmes sera également connu aujourd'hui. Cela fait 12 ans qu'on l'attend. Elles s'élanceront le 24 juillet 2022, le jour même où l'édition masculine prendra fin. Vous avez présenté en septembre la composition de l'équipe professionnelle féminine Cofidis. Ce n'était pas un coup de com' ou un effet de mode ?
Alors non, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un coup médiatique. Ce n'est pas non plus une obligation, comme je peux l'entendre parfois. Mmh. C'est rien de tout ça. Ça correspond simplement à notre volonté d'avoir un dispositif sponsoring qui soit complet, donc composé d'une équipe masculine, d'une équipe féminine et d'une section handisport, parce que je rappelle que nous avons maintenant une section handisport depuis 11 ans, que nous sommes d'ailleurs la seule équipe professionnelle à avoir logé dans notre structure une section handisport. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir un dispositif complet et le reflet, en quelque sorte, des valeurs que nous véhiculons au quotidien au sein de notre groupe. Donc, ça nous paraissait important et très cohérent, en tout cas, d'avoir aussi une équipe féminine qui, finalement, manquait dans notre dispositif.
Il existe donc désormais, avec l'équipe Cofidis, trois équipes pro féminines françaises. On est encore loin de l'Italie avec ses 8 équipes pro ou les États-Unis qui en comptent 5. Comment expliquez-vous ce retard et pensez-vous que la France, petit à petit, va le rattraper ?
Écoutez, sincèrement, c'est ce que j'espère. Je pense que le cyclisme féminin en France en est encore à ses balbutiements. Comme vous venez de le dire, on sera la troisième équipe et j'espère qu'on va donner envie à d'autres structures de voir le jour, d'autres structures féminines. Nous, ça correspond à une volonté de compléter notre dispositif de sponsoring, mais en même temps, notre intention, c'est aussi de participer, de contribuer au développement du cyclisme féminin en France. Et je pense que une possibilité, c'est justement de pouvoir créer une équipe féminine et de donner la possibilité à des coureuses de pouvoir courir, de pouvoir participer à une équipe. Et puis, je pense qu'elles seront fières de porter les couleurs de Cofidis l'année prochaine.
L'organisation du premier Paris-Roubaix féminin de l'histoire qui s'est tenu au début du mois est l'une des preuves, selon vous, que le cyclisme féminin est en plein essor, ou en tout cas commence à être en plein essor.
Oui, je pense. Oui, tout à fait. Le premier Paris-Roubaix, qui en plus s'est déroulé dans des conditions vraiment très, très difficiles, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Ça contribue effectivement aussi au développement du cyclisme féminin en France. En fait, il faut que toutes les parties prenantes soient volontaristes en fait, pour développer le cyclisme féminin, donc des sponsors hein, comme Cofidis, mais aussi des organisateurs. Et là, en l'occurrence, c'est la volonté de ASO, hein, qui est l'organisateur du Tour de France, mais aussi de Paris-Roubaix, entre autres. Et donc, c'est à l'initiative de ASO d'avoir créé cette course Paris-Roubaix pour les femmes, et puis le Tour de France qui aura lieu pour la première année en 2022. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté partagée, une volonté commune. C'est le cas aussi de la Fédération française de cyclisme. C'est le cas aussi de l'Union cycliste internationale. Voilà. À partir du moment où toutes les parties prenantes seront volontaires et contribueront, eh bien, on arrivera effectivement à développer le cyclisme féminin. Après, c'est un point de départ pour moi. Là, ce qu'on a vu sur Paris-Roubaix, ce qu'on va voir l'année prochaine, parce qu'il y a de plus en plus de courses qui vont être ouvertes aux femmes, pour moi, c'est un point de départ. Et puis après, c'est une spirale, en fait. Et là, on en est au début. Et voilà, on va de cette manière-là, on va contribuer au cyclisme féminin. Et je suis particulièrement fier que Cofidis y contribue.
On ne va plus en faire un événement, en fait. On ne va plus mettre en exergue un Paris-Roubaix féminin, un Tour de France femme. Ce sera dans le paysage du sport français, international, ce sera normal.
Oui, tout à fait. Il y aura les courses qui seront masculines, qui seront également féminines. Ou alors, si on précise qu'il y a un Paris-Roubaix féminin, il faudra préciser qu'il y a un Paris-Roubaix masculin.
Merci beaucoup Thierry Vitu d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de Cofidis Compétition et également directeur des ressources humaines du groupe Cofidis. Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Merci beaucoup.
Après l'effort, le réconfort, on passe à table avec Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Julien, bonjour Ambline.
Bonjour.
Alors comme tous les jeudis, Olivier, nous passons à table avec vous. Mais avant, il va falloir prendre la mer. Vous nous emmenez pêcher la coquille Saint-Jacques.
Ben oui, vous l'avez peut-être remarqué. Mais depuis une petite semaine, depuis le 1er octobre précisément, elles sont de retour sur les étals des poissonniers. Symbole de l'arrivée de l'automne, la coquille Saint-Jacques est en France un produit saisonnier. Il faut savoir que l'on ne trouve que début octobre à mi-mai. Le coup d'envoi de la pêche dans les ports s'est accompagné en plus cette année d'une bonne nouvelle. La saison 2020-2021 s'annonce très bien avec des stocks au plus haut.
C'est une spécificité française que de saisonnaliser la pêche de la Saint-Jacques.
Oui, car en fait, comme la moule ou les huîtres, on pourrait pêcher de la coquille Saint-Jacques toute l'année, mais la France, et il faut louer cette politique, ferme la pêche durant l'été, période de reproduction des Saint-Jacques. Ce n'est pas le cas, par exemple, de nos voisins britanniques, hein, et ce qui crée évidemment régulièrement des tensions. Ainsi, les ressources chez nous sont préservées, et lorsque la pêche démarre, les fonds marins sont pleins. Alors, les deux principaux gisements français sont la baie de Seine et la baie de Saint-Brieuc. On ne pêche que des coquilles adultes de plus de 102 mm. Dans les Côtes d'Armor, elles bénéficient même d'une indication géographique protégée. Mon conseil, évidemment, toujours les choisir ultra fraîches et de préférence en coquille. Il faut la faire décoquiller au dernier moment par le poissonnier, surtout si on veut la consommer crue ou la décoquiller soi-même. Les coquilles doivent être bien fermées et le mollusque, comme pour les huîtres, doit être vivant. Vérifiez aussi qu'il s'agit bien de la variété Pectem Maximus, la seule et la vraie coquille de nos côtes avec son goût légèrement sucré et noisté. Attention aux imitations. Dans les produits préparés, on trouve de nombreux produits d'importation, y compris des pétoncles, sous la dénomination de coquilles Saint-Jacques, d'où l'importance de les acheter fraîches et chez le poissonnier.
Comment on vérifie d'ailleurs qu'elles sont fraîches ?
Eh bien, comme je l'ai dit, il faut que la coquille soit bien fermée et que le mollusque à l'intérieur soit vivant. Donc quand on pousse avec son doigt, il bouge.
Il bouge ! Tout simplement. Certaines coquilles contiennent du corail, d'autres pas. C'est quoi la différence ?
Eh bien, c'est tout simplement lié à la période de pêche. D'octobre à février, la période de reproduction est terminée. Les coquilles sont toutes blanches, sans corail. Le corail sera à nouveau présent un peu plus tard dans la saison. En fait, il s'agit d'une glande génitale qui peut être légèrement blanchâtre ou orangée, sachant que la Saint-Jacques est hermaphrodite. Certains mangent ce corail, d'autres pas. Moi, je le tartine à cru avec une pointe de citron sur un toast, par exemple.
Bonne idée. Vous nous dites, Olivier, année abondante, prometteuse, on peut espérer des prix raisonnables.
Vous savez, la Saint-Jacques n'est pas vraiment un produit bon marché, car si on la trouve en fait entre 7 et 10 euros le kilo en moyenne, entière, une fois décoquillée et débarrassée de ses bardes, il ne reste pas grand-chose. Le prix net, en réalité, plutôt de l'ordre de 50 à 60 euros le kilo. Mais oui, on constate pour l'heure qu'il n'y a pas d'augmentation de prix cette année. Ayons donc une pensée pour nos pêcheurs qui, à cette heure-ci, ont pris la mer pour aller récolter nos précieuses coquilles et nous les apporter à table.
Alors fraîche, on la mange crue en carpaccio, on peut aussi la faire poêler ?
Absolument, comme vous voulez, avec un petit peu de beurre de micelle ou alors tout simplement accru avec une pointe de fleur de sel et une huile d'olive à la vanille, c'est délicieux.
Et un peu d'ail aussi, c'est parfait.
Bah, si vous voulez, mais pas trop.
Pas avec la vanille, quand je parlais de poêler.
Ah oui.
Ah, poêler, mais très peu, parce que la Saint-Jacques est délicate.
Merci Olivier.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Pas trop d'ail donc, mais de l'info avec le journal permanent d'Alban Le Prince.
Emmanuel Macron ne craint pas les courbatures. Le président annonce ce matin en déplacement en Seine-Saint-Denis un plan de 200 millions d'euros pour la création de 5000 équipements sportifs partout en France. Il doit ensuite disputer cet après-midi un match de foot au profit des pièces jaunes. La mosquée d'Allonnes, près du Mans, fermée, accusée de faire l'apologie du terrorisme. Elle abrite également une école coranique qui accueille 110 enfants. 10 ans après la tuerie d'Utøya, une attaque hier soir en Norvège a fait 5 morts et 2 blessés. Le suspect, un Danois âgé de 37 ans armé d'un arc et de flèches, a été interpellé. Selon la chaîne TV2, cet homme converti à l'islam a des antécédents médicaux, information que les autorités n'ont pas voulu confirmer. Et puis 5 mois de prison avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général, c'est la peine prononcée à l'encontre du lycéen qui a fait tomber brutalement sa professeure dans un lycée de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne vendredi dernier.
Matin.
L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Et ce matin, Julien, nous sommes sur la Côte d'Azur.
Bonjour Patrice Maggio.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le directeur adjoint des rédactions du groupe Nice Matin, où l'on peut lire aujourd'hui un article très inquiétant, il faut le dire, article sur le réchauffement climatique et en particulier l'impact sur les villes côtières de la montée des eaux. Et le cas de Nice et plus largement de toute la Côte d'Azur a été étudié.
La Côte d'Azur est même au-delà. En fait, il y a 1,5 milliard de personnes qui pourraient effectivement avoir les pieds dans l'eau d'ici la fin du siècle si le réchauffement climatique se confirme. Mais effectivement, pour la Côte d'Azur, c'est une vraie préoccupation puisque ce serait entre 50 cm et 1 mètre d'eau en plus d'ici la fin du siècle. Alors on publie à la dernière page de Nice Matin un certain nombre de projections. Les scientifiques ont pris des fourchettes assez larges, de 1 à 4 degrés supplémentaires, entre 200 et 2000 ans le temps que tout ça se réalise. Mais enfin, On voit bien que à Nice, un certain nombre de sites très connus connaissent un sérieux problème. L'aéroport devrait quasiment se reconvertir en base pour sous-marins. Le marché du cours Saléa devrait se spécialiser plutôt dans les fruits de mer. Le festival de Cannes aussi, on sait que le palais des festivals est construit tout près de la mer, bah, devrait songer à un déménagement. Il y a finalement que le rocher de Monaco, sur lequel le palais princier est construit, qui s'en sortirait pas mal. Alors, c'est certes inquiétant sur le long terme, mais il y a quand même un certain nombre de dispositions qui sont prises localement pour au moins retarder ce scénario.
Lesquelles, par exemple ?
Alors, en ce moment, par exemple, dans la région, on plante beaucoup d'arbres. On essaye de rendre les entreprises plus vertueuses, on essaye d'apprendre les gens à mieux trier les déchets. Il y a quand même, dans chaque agglomération, dans chaque métropole, une vraie prise de conscience avec des plans de transformation de nos comportements qui commencent à porter leurs fruits, même si souvent, c'est accompagné de débats assez vifs avec les défenseurs de l'environnement qui trouvent soit qu'on fait mal, soit qu'on ne va pas assez loin.
Le problème, et c'est ce qu'expliquent les scientifiques qui ont mené cette étude, c'est que même si on arrive à limiter le réchauffement à 1,5 degré, hein, ce qui est l'objectif de l'accord de Paris, le mal est en quelque sorte déjà fait, le niveau de la mer va monter inexorablement.
Oui, parce que déjà, le taux de dioxyde de carbone, notamment accumulé dans l'atmosphère, est trop élevé. Donc, il y a comme ça un scénario quasiment inéluctable. La question, c'est le temps, le délai pour y arriver, pour se préparer, et qui va nécessiter certainement plusieurs années pour se mettre en place. Mais le chantier est d'ores et déjà démarré.
J'aimerais revenir un instant sur les cartes que vous publiez, les images de synthèse. C'est extrêmement impressionnant. En fait, on a l'impression de voir Venise, une vue aérienne de Venise.
Ça pourrait être ça. Effectivement, c'est une photo que l'on a récupérée sur des sites anglophones où l'actuelle coulée verte qui vient justement d'être aménagée et qui est un pas de plus vers une ville plus verte à Nice. Ce ne serait plus une coulée verte, mais un fleuve qui coulerait au milieu de Nice, alors que jusqu'à présent, on devait se contenter du Var, du Paillon et de quelques affluents. C'est effectivement grâce à ce type d'image choc, peut-être, qu'on accélérera la prise de conscience.
C'est ce qu'on souhaite, effectivement. Merci beaucoup, Patrice Maggio, de nous avoir raconté cet article à lire aujourd'hui dans Nice Matin. Très bonne journée à vous.
À bientôt.
Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Emmanuel Macron se prépare-t-il physiquement pour le marathon présidentiel ? Il enfile en tout cas ses crampons cet après-midi pour un match de foot caritatif. Le chef de l'État annonce déjà ce matin la création de 5000 équipements sportifs en France d'ici 2024. 10 ans après la tuerie du Toya, un homme tue 5 personnes en Norvège. Le suspect armé d'un arc et de flèches a été interpellé. Les enquêteurs n'excluent pas la piste terroriste. Et puis bienvenue dans la supérette Big Brother, le premier magasin autonome expérimenté dans le Nord. Aucune caisse, aucun produit à scanner. Ce sont les caméras qui enregistrent vos achats. Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Il n'est pas encore candidat, mais il a des fourmis dans les jambes, de la course, du tennis, de la boxe, du ping-pong. À 6 mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'est remis sérieusement au sport. Cet après-midi, il enfilera maillot et crampons pour un match de foot au profit de l'opération Pièce Jaune. Coup d'envoi à 17h15 sur la pelouse de Poissy dans les Yvelines. 90 minutes aux côtés des vedettes du Variété Club de France, Arsène Wenger ou Marcel Desailly. Mais Cyril de la Morinerie, pour Emmanuel Macron, l'enjeu dépasse le sport.
Oui, ce match de foot aura des faux airs de meeting de campagne avec Brigitte Macron au bord du terrain en première supportrice et un président en plein exercice de communication, certes sans micro, mais avec des crampons aux pieds. Emmanuel Macron souhaite jouer tout le match, ce qui n'a pas encore été validé par les services de sécurité de l'Élysée. Mais surtout, le président de la République a tenu à changer de poste, révèle le manager général du Variété Club de France, Jacques Vendroux.
Habituellement, il joue latéral gauche, le numéro 3, qu'il a piqué à leur boulot. Il m'a dit « je veux jouer milieu de terrain défensif ». C'est un poste qui lui plaît, c'est un poste où il faut être prêt physiquement, mais franchement, j'ai pas d'inquiétude.
Ainsi, Emmanuel Macron pourra s'aventurer à droite et s'appuyer sur l'un de ses soutiens, le maire de Poissy, Carl Olive, tout en tentant de ne pas se faire déborder sur sa gauche. Alors face à lui, il n'aura pas à affronter Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, mais des soignants du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Le président pourra regarder vers l'horizon. Il ne verra pas Édouard Philippe et son nouveau parti, mais l'attaquant Sonny Anderson. Emmanuel Macron, qui a eu une licence de foot lorsqu'il étudiait à l'ENA, s'est préparé physiquement pour ce match,
comme s'il s'apprêtait à débuter une grande compétition.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Et pour s'échauffer, Emmanuel Macron visitera ce matin plusieurs sites des JO Paris 2024. Le chef de l'État devrait annoncer la création de 5000 équipements sportifs en France, terrain de basket, city-stade ou dojo, avec une enveloppe de 200 millions d'euros.
Emmanuel Macron qui cette semaine en tout cas occupe tous les terrains. Avant le sport, il avait déjà dévoilé ses intentions pour l'industrie. France 2030, un plan pour accélérer la transition écologique. La construction par exemple du premier avion bas carbone d'ici 2030, c'est possible, a insisté le chef de l'État. Optimisme partagé par Eric Schulz, spécialiste aéronautique.
Bien sûr, il y a quelques challenges technologiques à passer, notamment en ce qui concerne l'hydrogène, puisqu'on parle principalement de l'hydrogène. Donc il faut le produire d'une manière verte. Ensuite, une fois qu'on a produit cet hydrogène, il faut le stocker. Ça veut dire des challenges importants au niveau des aéroports, où on va se balader quand même avec des quantités d'hydrogène qui sont considérables. Et puis enfin, il y a toutes les conséquences que ça peut avoir sur la fabrication des avions. Au niveau des sources d'hydrogène, il va falloir étanchéifier, il va falloir travailler sur les réservoirs, il va falloir travailler sur des solutions originales qui permettent de garantir que l'hydrogène à bord ne croisera jamais de particules d'oxygène. Donc voilà, il y a des montagnes qui sont importantes à passer, mais je pense que c'est dans l'ordre du tout à fait faisable.
Éric Schulz, spécialiste aéronautique, joint par Marion Gauthier pour Europe 1.
6h03 sur Europe 1 et la Norvège sous le choc ce matin.
Au moins 5 personnes sont mortes hier dans une attaque au sud-ouest d'Oslo. L'assaillant, un Danois de 37 ans, a utilisé des arcs et des flèches. Selon les médias locaux, l'homme se serait converti à l'islam et aurait des antécédents médicaux. Des informations que n'ont pas confirmées les autorités pour l'instant. La piste terroriste en tout cas n'est pas exclue. Interviewé par la télévision norvégienne, ce responsable de la police raconte le déroulé de l'attaque.
Nous pouvons confirmer qu'il y a eu un accident grave au centre de Kongsberg. À 18h13, la police a reçu plusieurs appels. C'était à propos d'une personne qui se déplaçait avec une arme, apparemment un arc et des flèches. Nous pouvons malheureusement confirmer qu'il y a plusieurs victimes. Les blessés ont été transportés à l'hôpital pour être soignés et l'auteur des faits a été arrêté par la police dans la ville voisine de Drammen. Aucun complice n'est recherché, l'homme aurait donc agi seul en se déplaçant énormément. Le travail maintenant, c'est de rassembler les preuves et les indices pour comprendre mieux ce qui a pu se passer.
Un responsable de la police interviewé par la télévision norvégienne.
On revient en France avec cette première, une enseigne qui teste un nouveau prototype de supermarché. Auchan expérimente le premier magasin autonome sans aucun caissier ni produit à scanner.
Ce sont des caméras qui enregistrent en réalité vos achats. Pour le paiement, il suffit d'être inscrit sur l'application du magasin. Ce magasin test ouvert jour et nuit, 7 jours sur 7, est installé au sein du campus de l'EDEC, une école de commerce basée à Roubaix dans le Nord. Le reportage de Lionel Gougelot.
Une inscription sur une appli, un QR code pour entrer dans la supérette et les 28 caméras au plafond détectent les mouvements du client et les produits qu'il choisit. Alors ça paraît un peu mystérieux comme ça.
Ça, j'ai pas trop compris encore.
C'est vrai qu'on est un peu perdu là-dessus, on sait pas trop comment ça fonctionne.
Mais cela permet un achat sans formalité, ou presque.
C'est beaucoup plus rapide, on choisit, on part, il n'y a pas l'étape de paiement.
C'est très pratique de juste aller chercher à manger très rapidement et d'aller manger entre amis. Moi, je trouve ça cool, je trouve que c'est une bonne idée.
En fait, l'impression d'acheter sans payer, mais ça n'est qu'une impression.
Quand vous sortez du magasin, vous êtes vite rattrapé parce que vous avez quand même une notification parce que votre carte bancaire a été débitée. C'est une habitude à prendre et je pense que dans les campus, c'est vraiment adapté.
Tout cela donc sous la surveillance de la vidéo.
J'ai envie de vous dire, pour nous, pour la jeune génération, ça change pas grand-chose. On a l'habitude, on est surveillé partout, il y a les caméras partout dans l'école. Donc, pour moi, c'est pas gênant en tout cas.
Mais l'acte d'achat reste anonyme, pas question de reconnaissance faciale, assure Guillaume Robin, responsable des nouveaux concepts chez Auchan.
Bien sûr, on ne reconnaît pas les personnes dans leur parcours. Toutes les données sont anonymisées. On ne fait pas de reconnaissance faciale au sein de cette supérette.
Une supérette Big Brother qui ne préfigure cependant pas du supermarché du futur, dit-on chez Auchan, un concept qui n'est que complémentaire des autres modes de distribution. Approuvé, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et on reste dans les rayons de votre supermarché pour un autre bouleversement dans nos habitudes de consommation. Oui, Julien, oui, Omblin, les Français consomment désormais plus de mozzarella que de camembert.
Non. Je sais,
ça peut choquer, effectivement. Le sacro-saint fromage normand perd sa place de numéro 1 au profit de l'italien dont les ventes augmentent de 5% chaque année selon le syndicat du camembert français.
Ah, mais c'est un tremblement de terre culturel.
Culinaire, alimentaire, culturel, bref, un cataclysme.
Merci, Romain Oquet, pour ce journal.
6h06, on va se remettre de nos émotions.
Ah oui.
Puisqu'on va passer au sport.
Avec un bon claquos.
L'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et l'événement aujourd'hui, Martin, c'est l'annonce du parcours du prochain Tour de France.
Oui, les Alaphilippe, Pogacar et autres Cavendish sont de retour à Paris. Alors, pas pour une course, non, mais pour une conférence de presse. Le Tour de France 2022 dévoile son nouveau visage ce midi. On en connaît déjà quelques contours, hein, les dates du 1er au 24 juillet, le grand départ au Danemark. Mais la principale nouveauté, hein, c'est le retour du Tour de France féminin. Il avait disparu du calendrier depuis 2009, une éternité au point que les plus jeunes coureuses ne s'en souviennent même pas, à l'image de l'ancienne championne de France, Jeanne Vielle, 21 ans.
C'est vrai que j'étais pas trop à l'affût de tout ça. En revanche, le Tour de France masculin, ça, je sais que je suivais bien. Mais après, c'est plus tout ce qui était, oui, les grandes championnes, Edwige Pitel, Annie Longo, elles en connaissaient parce qu'elles avaient vraiment des records, quoi. Elles battaient des records. Mais non, je n'ai vraiment pas le souvenir d'avoir pu voir toutes ces filles parcourir la France.
Le Tour de France féminin s'élancera le 24 juillet prochain, jour de l'arrivée des hommes. Première étape sur les Champs-Élysées. Les sept autres étapes seront aussi dévoilées aujourd'hui.
Du foot et soirée de fête au Vélodrome hier soir.
Oui, Didier Drogba était de retour à Marseille, hein, pour un match caritatif. Autour de lui, une ribambelle de stars, de Tony Parker à Matt Pokora, le tout devant plus de 25 000 supporters survoltés. Ce soir, hein, c'est un président de la République qui va fouler la pelouse. Emmanuel Macron participe à un match de charité avec le Variété Club de France. Ça se passe à Poissy, hein, les bénéfices du match seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Une nouveauté en Ligue 1 à l'année prochaine, un Boxing Day, c'est-à-dire une journée entre Noël et le jour de l'an, comme en Angleterre. Mais c'est temporaire, hein, uniquement pour s'adapter à la Coupe du Monde au mois de novembre. Au volet judiciaire, enfin, un champion du monde dans la tourmente, Lucas Hernandez, est convoqué mardi prochain par la justice espagnole. Condamné en 2019, il risque 6 mois de prison pour non-respect d'une mesure d'éloignement.
3 résultats pour finir, Martin.
Du foot féminin et Paris qui balaye les Ukrainiennes de Kharkiv en Ligue des Champions, 5-0. Du handball avec un nouvel exploit de Montpellier qui s'impose en Macédoine contre un grand d'Europe, hein, le Vardar Skopje, 31.
Et qui sont revenus avec des
réfugiés. Et qui sont revenus avec 10 réfugiés, exactement, je vous en parlais tout à l'heure. Et puis une défaite pour finir, hein, en basket. Monaco a tenu tête au grand Real Madrid hier avant de craquer, hein, 94-86. Les Monégasques sont 7e de l'Euroleague.
C'était le journal des sports de Martin Lange. Merci Martin.
6h09, restez avec nous, on sera dans un instant avec un représentant des entreprises de recyclage très inquiet de la multiplication des appareils avec des batteries au lithium. Elles sont hautement inflammables. Résultat, les incendies se multiplient dans les centres de tri. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h12 et on en vient à votre interview, Julien. On reçoit ce matin Olivier François, le président de la Commission internationale de FEDEREC, la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage.
Bonjour Olivier François.
Bonjour.
Je tenais à ce que l'on vous entende parce que vous tirez la sonnette d'alarme sur un fléau qui touche de plus en plus de centres de tri des déchets, les incendies, et bien souvent leur origine ce sont les batteries au lithium. Comment vous l'expliquez ?
Alors, c'est à la fois, en effet, les centres de traitement des déchets, mais aussi les installations de recyclage. Et donc, ça touche vraiment tous les acteurs autour du déchet, mais même au-delà, puisque vous savez probablement qu'il y a des interdictions maintenant pour ces batteries au lithium dans les avions, dans les soutes des avions de transport de passagers. Nous l'expliquons tout simplement parce que les batteries au lithium, leur usage se multiplie dans des objets de plus en plus petits. Donc, on les retrouve même parfois, vous voyez, sous forme de clés de voiture. Vous voyez, donc c'est vraiment des objets extrêmement petits, qui sont donc très difficiles à détecter dans les flux de matière que nous traitons ou que nous recyclons. Et comme ils sont très nombreux et autocombustibles, hein, c'est ce qu'on appelle dans la profession maintenant des véritables bombes incendiaires, puisque ces batteries au lithium, en fait, prennent feu spontanément, sans aucun apport d'énergie supplémentaire. Elles ont l'énergie nécessaire pour prendre feu spontanément.
Et justement, comment vous l'expliquez ? Comment se fait-il que ces petites batteries s'enflamment spontanément ?
Alors en fait, si vous voulez, c'est que le lithium est un métal qui, en contact de l'humidité ou de l'eau, encore mieux, va se décomposer et produire de l'hydrogène, tout en produisant de la chaleur. Ce qui fait que vous avez l'hydrogène, qui est un gaz extrêmement combustible, qui, évidemment, quand il va être chauffé par le dégagement de chaleur, eh bien, va s'enflammer et va enflammer tout ce qui l'entoure.
Il y a eu combien d'incendies depuis le début de l'année à cause des batteries au lithium ?
On n'en a pas sur l'année 2021 parce qu'elle n'est pas terminée. Mais si on regarde un petit peu les alertes que nous avons au niveau de la profession, on est pratiquement à au moins une alerte par jour. Donc, vous voyez déjà, voilà, on est déjà bien avancé sur l'année 2021. Il y a certainement plus de 100 à 150 départs de feu ou incendies graves qui se sont déroulés depuis le début de l'année.
Donc, ce ne sont pas des cas isolés, avec parfois de gros dégâts, ces incendies, voire des blessés.
Oui, parfois de gros dégâts parce que ça, c'est un des soucis que nous avons, c'est que on essaye d'installer ou de mettre en place des processus d'exercice pour les pompiers, hein, le SDIS, comme on dit, hein, les services départementaux des incendies, de manière à ce que les pompiers soient familiers avec nos installations qui disposent de tout ce qu'il faut pour intervenir rapidement. Nous avons des réserves d'eau, des systèmes de pompage, enfin, etc. Mais on a encore des difficultés pour s'assurer que les services d'incendie viennent régulièrement sur nos sites réaliser des exercices. Et en effet, parfois, on peut avoir jusqu'à une heure, deux heures avant que les services d'incendie commencent réellement à entrer en opération sur nos installations parce qu'ils ne sont pas familiers. Ça, c'est vraiment une difficulté qu'on aimerait résoudre dans les mois qui viennent.
C'est d'obtenir. Et c'est la raison pour laquelle vous avez envoyé un courrier, je crois, au Premier ministre ?
Exactement, pour obtenir en effet que les préfets inscrivent en priorité auprès des services des incendies, vraiment cette idée de venir faire des exercices chez nous, dans nos entreprises, afin que les services des pompiers soient vraiment familiers avec nos installations.
Soyons très concrets, Olivier François. Imaginons que je souhaite jeter, par exemple, une brosse à dents électrique où il y a une batterie au lithium à l'intérieur. Je la mets où ?
Dans le cas présent, normalement, quand vous allez dans une déchetterie, vous allez avoir un bac ou des conteneurs qui sont destinés à recevoir les déchets d'équipements électriques, électroniques, électroménagers. Donc typiquement, une brosse à dents électrique devrait aller en effet dans ces conteneurs. Et là, vous rentrez dans une filière qui est appropriée. Le recyclage de l'électroménager, c'est une filière qui a déjà été confrontée depuis des années avec ce problème de batterie au lithium. Donc là, on a, je dirais, une filière qui peut faire face. Là où il y a un danger, c'est que le consommateur, en effet, jette cette brosse à dents électrique dans un conteneur qui n'est pas la filière de l'électroménager. Et donc, cette brosse à dents va se retrouver dans des filières qui ne sont pas destinataires de ce type d'appareil. C'est là où on a ces risques d'incendie dont on parlait tout à l'heure.
Un incendie environ par jour, c'est ce que vous nous dites. J'imagine que les assurances commencent à tiquer.
Bien sûr, il y a de nombreux confrères dans la profession qui rencontrent de graves difficultés dans ce domaine. Alors, soit on perd totalement le soutien de compagnies d'assurance, ça c'est possible, hein. Et donc quand elles constatent qu'il y a un secteur professionnel qui a trop de problèmes, eh bien, elles se retirent, hein, tout simplement. Ou bien, si elles ne se retirent pas, elles nous changent les franchises, elles élèvent le niveau de franchise à des sommets très élevés, parfois de millions d'euros, ce qui fait que ça revient presque au même que si on n'avait pas d'assurance, en fait.
Merci beaucoup, Olivier François, de nous avoir expliqué ce problème de ces batteries au lithium dans les centres de tri et de recyclage. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission internationale de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir.
6h17 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans la partition, l'album Let It Be des Beatles. À tout de suite.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h19. Voici les principaux titres de ce jeudi avec Alban Le Prince.
Une soirée de terreur hier en Norvège où 5 personnes ont été tuées, 2 blessées. Le suspect, un Danois de 37 ans, a été interpellé. La chaîne TV2 indique que cet homme converti à l'islam aurait des antécédents médicaux. Information que les autorités n'ont pas voulu confirmer. Macron chausse les crampons direction Poissy en région parisienne où il disputera un match de foot au profit des pièces jaunes cet après-midi. Avant ça, le président annoncera ce matin un plan de 200 millions d'euros pour la construction de 5000 équipements sportifs partout en France. Les élèves de primaire de 12 nouveaux départements vont pouvoir tomber le masque à partir de lundi puisque le Covid y circule moins, ce qui n'est pas le cas de la Lozère qui l'impose à nouveau aux enfants face à un rebond de l'épidémie.
Et comme chaque matin, notre bonbon musical, votre partition, Omblin, avec cette semaine la parution d'une réédition historique de Let It Be. Quand l'album sort en mai 1970, les Beatles ne sont plus. Let It Be ressemble alors à un faire-part de deuil envoyé aux fans avec son liseré noir sur la pochette autour des photos d'identité des 4 garçons de Liverpool.
Il n'est pourtant pas le dernier album enregistré par le groupe. Julien, entre-temps, Abbey Road a été mis en boîte. Les bandes de Let It Be sont donc restées de côté après de nombreux désaccords.
Change my world. L'histoire de ce disque commence le 2 janvier 1969.
Après le succès de l'album Blanc, les Beatles se remettent au travail avec l'idée d'enregistrer un disque en live et de filmer ce moment pour que, je cite Paul McCartney, on voit les Beatles répéter, improviser, se serrer les coudes, voir comment l'alchimie prend, mais rien ne vient. Pire, George Harrison en a assez de voir ses compositions écartées.
Et il finit par claquer la porte.
Oui, une semaine à peine après être retourné en studio. Finalement, il se laissera convaincre de revenir à condition de laisser tomber l'idée du concert.
On est fin janvier 1969, les répétitions commencent véritablement et portent leurs fruits.
Sans doute grâce à l'arrivée d'un ami du groupe, le claviériste Billy Preston. Il a un effet d'apaisement sur les Beatles. Les enregistrements se poursuivent sous le contrôle de l'ingénieur du son Glyn Jones. L'album est baptisé Get Back et la première mouture sort sur bande fin mai 69.
Mais voilà, personne n'est content du résultat, le projet est alors suspendu.
Il faudra attendre 6 mois pour que Glyn Jones se penche à nouveau sur les morceaux. Rien n'y fait, personne n'est satisfait. La sortie est encore repoussée jusqu'à ce que le célèbre producteur Phil Spector se dépêche sans l'accord de Paul McCartney.
Spector raccourcit, redimensionne, remix, arrange, réorchestre.
Voilà, il fait de l'album Get Back une belle mariée bien maquillée qu'il rebaptise Let It Be. Le son des Beatles est magnifié par Phil Spector, mais malgré ce précieux rafistolage, Paul McCartney reste furieux sans demander l'avis aux autres. Il sort son premier album solo quelques jours avant Let It Be qui paraît le 8 mai 1970. And when the broken hearted people living in the world agree, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let It Be des Beatles, l'album sera réédité en format coffret demain avec de nombreuses versions alternatives et rendez-vous le 25 novembre sur la plateforme Disney+, avec la mini-série du réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, The Beatles Get Back, au programme plus de 55 heures d'imagine édite.
Merci Omblin, restez avec nous dans un instant, votre matinale Get Back, comprenez, revient avec Dimitri Pavlenko, à tout de suite.
Europe Matin.
6h27, on vous souhaite un excellent jeudi en compagnie maintenant de Dimitri Pavlenko.
Bonjour Dimitri.
Bonjour Omblin.
Bonjour.